Eh bien, nous voilà revenus sur l'antenne de Radio Campus, en compagnie de Florence, de Tour de Bulle.
Oui.
Véropé.
Oui.
Et je marche, j'ai mangé ton nom, ton prénom.
Audrey.
Audrey, voilà. Et Shadia.
Shadia qui est de retour.
Voilà.
Et oui.
Donc là, on va aborder un sujet sur quand la vie quotidienne inspire l'auteur. Donc, je vais laisser la parole à Florence, qui va nous...
Alors déjà, ouais, on est en train de rigoler parce que nous voilà en majorité féminine. On est trois gonzesses pour un mec et il y en a deux qui portent une jupe, mais on
ne
dira pas qui. Quatre nanas, oui, c'est vrai, dis donc. Ça va, tu te sens pas trop tout seul?
Non, ça va, je suis plutôt content, hein. Je suis en charmante compagnie, donc c'est agréable.
Et donc nos trois auteurs, chacune à leur manière, se sont inspirées soit de leur vie quotidienne, soit de la vie quotidienne de personnes qu'elles connaissent, et racontent leur histoire. Alors Shadia a sorti deux albums, dont un qu'on a nous repéré avec notre club de lecture qui s'appelle Famille Nombreuse.
C'est ça?
Ouais, qui raconte l'arrivée d'une famille de Tunisie, une grande fratrie. Alors j'ai pas bien compris si c'était 11 ou 12 frères et sœurs.
Alors en fait c'est 12, mais j'ai perdu mes sœurs en bas âge. Donc finalement l'histoire se passe sans elles, parce que je ne l'ai pas connue, elle est décédée avant ma naissance.
Une énorme famille avec toute cette complication que ça peut être de partager l'espace, de partager les friandises, d'être le chouchou, pas le chouchou.
Oui. D'être une fille ou un garçon.
Combien de filles déjà?
Alors à la base il y avait 6 filles, 6 garçons, parce que ma mère elle fait bien les choses. Mmh. La balance était bien ajustée. Et aujourd'hui on est toujours 6 garçons et 5 filles.
D'accord. Et je me demandais les prénoms des personnages. Alors, je pense que tu pourras dire mieux que moi, mais ce sont vraiment leurs prénoms?
Non,
ou
non, parce qu'ils ont exigé, parce que bon, avant de faire le livre, je leur en ai parlé. Je leur ai dit, voilà, je vais parler de la famille, je vais parler de notre histoire, parce que comme j'ai perdu mes parents, je voulais un peu les faire revivre à travers ce livre, raconter leur histoire, leur parcours. Et donc j'ai demandé à mes frères et sœurs si ça les ennuyait que je parle d'eux. Finalement, ils sont hyper égocentriques comme moi. Mmh. Donc ils ont tous dit oui. Mais une personne dans la famille m'a imposé un pseudo, m'a dit voilà, moi je veux pas que tu mettes mon prénom, ce qui est complètement ridicule au final, puisqu'il y a mon nom de famille, mon nom de jeune fille, donc on peut facilement trouver les gens. Et du coup j'ai décidé de mettre un pseudo pour tout le monde.
D'accord, et comment est-ce que tu as choisi les pseudos? Tu leur as demandé de choisir quelque
c'est
chose?
C'est les pseudos qu'on se donne entre nous, les petits noms qu'on se donne entre nous justement. J'ai une de mes sœurs par exemple qui s'appelle, ça la dérangera pas, je donne son prénom, qui s'appelle Mounia, et je l'ai toujours appelée Moon.
D'accord.
Et je trouvais que ça lui correspondait bien, quoi. Donc voilà, donc c'est les pseudo qu'on se donne entre nous, que j'ai mis dans le livre.
Et alors, on s'est demandé à quel point tout était autobiographique. Et, si ils avaient participé à ce travail de mémoire, est-ce que vous vous êtes raconté des anecdotes pour que tu...
Oui. Alors, ils m'ont tous donné des anecdotes. Et puis, à un moment donné, il y avait même trop d'anecdotes, parce que je recevais des textos. Ouais, puis parle de ci, parle de ça. Puis, j'avais aussi des vétos. Parle pas de ci, parle pas de ça. Raconte surtout pas que je me suis rasé les sourcils au rasoir. Enfin, des trucs assez aberrants. Et ça m'a fait rire, et c'est ce qui m'a donné l'idée d'interférer dans mon roman graphique, de mettre des pages en jaune où c'était les réflexions des uns et des autres. Mais tout ce qui est raconté dans ce livre est véridique. Bon, après je le raconte sous le ton de l'humour, donc il y a toujours un petit peu plus, j'allais dire à la Marseillaise, mais c'est pas très cool de dire ça, mais bon, en rajoutant toujours un petit peu, mais tout ce qui est raconté est vrai.
Et ce qui n'est pas raconté, est-ce que tu as toujours respecté à la lettre ce qu'on t'a demandé de ne pas raconter ou est-ce
oui.
Que...
Oui. Oui, parce que je vais manger, en fait je vais souvent dans ma famille et puis quand je vais à Paris, je dors chez eux et puis sinon j'ai plus aucun point de chute après. Donc,
à la rue.
Oui, je respecte.
Voilà. C'est dangereux, ça c'est sûr. Et effectivement, tu parlais du jaune, la première bande dessinée, Famille Nombreuse, est en noir et jaune.
Oui.
Et la deuxième bande dessinée, Les Vacances au Bled.
En noir, oui, c'est ça, en noir et orange.
Et pourquoi ces couleurs-là?
Alors, je ne peux pas te dire malheureusement, sinon je te gâcherai la fin du
D'accord.
livre. Donc, je ne peux pas dire pourquoi le orange. Il faut le découvrir en lisant. Le premier, pourquoi le jaune? Parce que mon père avait une tenue, parce que mon père balayait dans le métro parisien, ouais. C'était son travail. Et à l'époque, les tickets de métro étaient jaunes et il fallait que les employés ressemblent aux tickets de métro. Non mais c'est vrai, il avait vraiment une tenue jaune avec une bande, comme dans le ticket. Ce qui fait que mon père était un ticket de métro géant, n'est-ce pas? Et on le voyait arriver de loin. Et bon, voilà, donc j'ai voulu prendre cette couleur pour lui rendre hommage.
D'accord. Alors je vais essayer de distribuer un petit peu
oui,
aussi
bien
la
sûr,
parole,
sinon,
je ne sais pas
Paris.
Trop comment m'y prendre. Non. Alors on a aussi Véropé qui s'inspire un petit peu de son histoire familiale dans son premier album. Alors excuse-moi, il faut que je retrouve,
Pardon.
C'était... C'est parce que je suis troublée. Le petit garçon, Raoul, purée. Raoul en milieu naturel, merci. Donc là, il s'agit plutôt de ton petit garçon à toi.
Oui, c'est ça, je me suis inspirée de mon fils, qui avait 4 ans à l'époque. Et je pense que ça a été ma façon un petit peu de supporter ces années-là, que je ne trouvais pas évidentes. Et voilà.
Tu présentais ça sous un blog au départ, hein, c'est
ouais,
ça ?
Oui, au début c'était un blog qui a été repéré dans un concours de blog et puis qui a fini en album.
Édité. Voilà. Et alors moi ce que je trouve génial, c'est toutes les petites réflexions que tu as réussi à choper justement de ce petit garçon qui se questionne sur plein de choses, mais aussi qu'il y a toujours une poésie avec les petits. Il faut arriver à justement saisir ces petits moments-là pour effectivement décompresser et puis se rappeler que la vie elle peut être assez marrante de temps en temps.
Oui, c'est ça. Il y a plein de choses qui ne me faisaient pas trop rire sur le coup en fait. et puis voilà, j'ai pris l'habitude de noter un petit peu tout ce qu'il disait et voilà. Et généralement, au bout d'un moment, ça finissait quand même par me faire un petit peu rire.
J'en ai noté une tout à l'heure qui m'avait bien plu. C'était « Je suis malade ». Oui, c'est ça, je suis malade, je ne peux pas manger des choses qui croquent, je peux manger des trucs un peu mous, comme du chocolat.
Ouais.
Voilà, on l'entend bien quand il dit ça.
Ouais, ouais. C'est vrai que tout ça, le cirque autour de la bouffe et tout, ça a été quand même un petit peu compliqué.
Oui, c'est pas forcément marrant.
Ouais, voilà, et que c'était un moyen aussi de mettre un petit peu tout ça à distance, et que quand j'en parlais autour de moi, je me rendais compte que ça faisait rire les gens, et donc voilà.
Et le deuxième album, là, celui qui vient tout juste de sortir, le site en 4e B.
Ouais.
Là, du coup, c'est ta classe.
C'est ma classe. Bah, en vérité c'est plusieurs classes, parce que je me suis inspirée de différents élèves, de différentes classes. Mais c'est assez fidèle, je pense, à ce qui peut se passer sur plusieurs séances de cours. Donc, je me suis inspirée de... J'avais quand même des élèves en tête, des élèves sur les 4 dernières années... Alors j'ai pas mis leur vrai prénom, mais j'avais des élèves en tête que j'ai retrouvés sur des photos de classe et je me suis dit tiens ils réagiraient comme ça à tel propos, etc. Et voilà, donc c'est très largement inspiré par certains élèves.
C'est génial en tout cas de se dire que ces élèves qui au départ arrivent un petit peu reculant devant Corneille, le site, tout ça c'est pas hyper actuel, voilà, on est à 300-400 ans d'écart avec ce qu'ils connaissent au quotidien. Comment est-ce qu'avec beaucoup de patience et beaucoup d'humour, on peut arriver à les passionner quand même pour cette poésie, pour le drame, pour au rage, au désespoir. Et puis, ils ont l'air de se saisir vraiment de ces dialogues-là, de jouer avec la langue française, et ça donne plutôt espoir dans ce qu'on peut faire en classe. Alors évidemment, ça ne doit pas être aussi simple que ça. Dans la vraie vie.
C'est vrai que j'ai souvent l'impression de devoir un petit peu faire la danse des 7 voiles dès qu'on commence un classique. C'est vrai qu'on y met pas mal d'énergie, mais je pense que c'est aussi pour ça que les classiques sont des classiques. C'est parce que une fois qu'on a passé tout le côté sous-titrage de chaque réplique, il commence à se faire au langage, il commence à réfléchir aux enjeux, et puis ils se prennent au jeu pour le coup. Et c'est vrai que ça fait partie des aspects gratifiants du métier.
Ouais, certainement. Et est-ce qu'il y a des élèves de ta classe qui savent ce que tu fais ?
Ben non.
Aucun ? De tes classes d'ailleurs ? Parce que
alors, non. Ouais,
j'ai réussi. Top secret. C'est drôle de se dire qu'eux, finalement, sont observés sans le savoir et vont être la source d'une inspiration.
Peut-être que j'ai peur qu'ils soient moins naturels si.
Ah oui, c'est sûr que ça poserait énormément de questions.
Ouais. Bon, ils finiront peut-être par le savoir.
En tout cas, le regard est très tendre, très drôle.
Je ne sais pas, mais moi, j'ai des enfants. Tu parles de quatrième, j'ai des filles qui sont en quatrième qui googlisent le nom, évidemment. Donc, effectivement, si tu as une photo qui est liée à un de
tes albums, normalement, non.
Bravo.
Ouais. Bon.
On essaye, vraiment.
Je ne garantis pas le total anonymat, non, mais bon, et puis j'ai fait en sorte aussi que cet album, j'ai pas honte éventuellement de leur présenter, que si ça leur tombe entre les mains, j'assume pleinement le propos. C'est moqueur, mais je pense que c'est quand même gentiment moqueur. Et puis, je pense qu'on pourrait faire la même chose sur les profs, et d'ailleurs, ça a déjà été fait. Ça ne me gênerait pas non plus, outre mesure, qu'ils sachent qui je suis.
Ah mais le jour où ils vont découvrir que tu es aussi auteur de bande dessinée, je pense que ça peut peut-être même changer leur perception de toi.
Ouais, sans doute. Bah ouais, ça peut changer aussi pas mal de choses. C'est peut-être aussi ce qui me fait un peu peur, peut-être.
Je sais pas.
Alors, j'essaie de continuer à distribuer la parole autant que je peux. Donc, Audrey Lainé, du coup, notre troisième invitée, qui a mis en dessin, en scène, le scénario de Navi.
Exactement.
Donc, c'est une bande dessinée qui s'appelle Moi en double.
Voilà.
Et qui parle du coup d'un sujet très intime pour Navi. Donc là, c'est toi qui te saisis de l'histoire de quelqu'un d'autre, mais sur quelque chose de très délicat, puisqu'elle est, on peut dire, obésité morbide.
Obésité morbide, exactement. Ouais.
Et en grande souffrance, mais en société, elle est dans le paraître, elle est joyeuse. C'est une femme qui fait de la télévision, qui est auteure, qui a beaucoup d'humour et d'esprit.
Qui a été mannequin grande taille.
Elle est très belle.
Qui est très très belle, oui.
Et au travers de son scénario, mais de ton dessin, on rentre dans l'envers du décor, on voit la souffrance, on voit la difficulté de paraître, elle le dit d'ailleurs, de ne pas être, d'être, de paraître. On voit ce double qu'elle se crée qui concrétise toute la souffrance qu'elle a par rapport à son surpoids, qu'elle va essayer d'assassiner. Et du coup, ce travail en binôme, là, comment est-ce que ça s'est créé? Comment tu l'as rencontré? Est-ce que c'est elle qui t'a demandé?
Alors, on s'est rencontrés au travers de l'éditrice, qui fait un travail de recherche de dessinateur pour justement ses scénaristes. Donc, qui a proposé mon travail à Navi et qui m'a dit, voilà, c'est toi que je veux. Donc, voilà.
C'était ta première BD?
C'était ma première BD, sachant que c'était pas mon travail, étant donné que je suis dans l'animation, normalement, dans l'animation de film. Moi, j'ai cru que c'était une blague, très clairement. Mais finalement, j'ai accepté. Elles ont attendu que je finisse la production sur laquelle je travaillais à cette époque-là, qui a duré à peu près un an. Et pendant ce temps, on a monté le dossier d'édition, et après, on a pu s'attaquer à l'histoire. Et donc voilà, on s'est rencontrés, on en a beaucoup parlé. Navi m'a raconté toute son histoire. Donc toute cette histoire de perte de poids, de se rendre compte finalement que c'était pas la solution.
Ouais.
Et que cette perte de poids amenait d'autres problèmes et des questions auxquelles elle s'était absolument pas
confrontée.
Qu'elle s'était pas confrontée et qu'elle s'était pas posée en fait à la base. Voilà.
Et quand on est comme ça, devant le fait de devoir mettre en image la souffrance, la nudité, vraiment le plus intime de quelqu'un, comment est-ce qu'on lui présente le dessin? Comment est-ce qu'elle reçoit? Est-ce qu'elle a demandé des modifications, des choses?
Absolument pas. Pas sur le dessin, du moins en termes d'image d'elle-même. Sachant que moi, j'avais énormément de dessins de modèles vivants. Puisque ayant fait des écoles, on faisait aussi beaucoup de ça, donc moi c'est quelque chose qui me dérangeait pas. J'avais dans mon book pas mal de dessins de nus, et c'est aussi pour ça qu'elles m'ont contactée, parce que j'avais ce type de dessin. Donc ça a pas du tout été une question.
D'accord.
Ça a été même parfois de me dire hésite pas à grossir le personnage, parce que j'étais plus grosse que ça. Moi j'osais pas, j'avais peur de la vexer. Et finalement, c'est elle qui m'a dit non, vas-y. Donc voilà, ça a été justement plus dans l'autre sens.
Et dans la création de ce personnage, le double là, est-ce que c'est elle qui t'a mise sur cette idée de faire une BD donc en noir et blanc avec un personnage rouge? Enfin, le double, il a vraiment une présence graphique.
Non, pas spécialement. C'était surtout le fait que j'avais pas spécialement envie de faire de la couleur. On avait fait des tests de couleur, mais sachant que j'avais pas spécialement envie, bah, c'était pas super réussi. On va pas se mentir. J'avais dit qu'à la limite, si je faisais de la couleur, c'était pour que cette couleur ait un vrai intérêt, qu'elle ait un rôle dans l'histoire. Et pour le coup, sachant que le double est cette même personne, ça permettait aussi de le différencier, puisque le dessin du personnage est exactement le même. Donc ça lui donnait vraiment un rôle, et ça lui donne une identité, et ça permet aussi de le repérer tout au long de l'ouvrage. Donc c'est aussi à la fois un marqueur visuel et à la fois une aide scénaristique.
En tout cas, ça marche très bien. C'est drôle d'ailleurs parce que chacune d'entre vous a utilisé des codes de couleurs dans le. Toi, c'est.
Moi, c'est pas moi qui les ai faites. Hein, donc. Ah. Je ne saurais trop m'exprimer dessus.
Mais quand même, les scènes où c'est le CID, ça reste en noir et blanc.
C'est vrai que ça, c'était. Ouais, c'était une décision de. Bah, j'avais peur que ce soit un peu compliqué à suivre comme histoire. Avec le CID, j'avais peur qu'on ne comprenne pas s'ils étaient en train de regarder une représentation du CID, s'ils étaient en train de lire le CID. J'avais peur qu'il y ait des difficultés de lecture à ce niveau-là. Et c'est pour ça que très rapidement, je me suis dit qu'il fallait que visuellement ce soit très différent. Mais c'est Philippe Marlu, avec qui je suis très bien entendu, qui a fait les couleurs. C'est pas moi.
D'accord. En tout cas, ça participe à la tendresse du trait, très rond, très. Ils sont mignons. Ils ont l'air très mignons comme
ça. Ils sont
mignons
les quatrièmes. En peinture.
Oui. Non, c'est bien que ce n'est pas tout le temps le cas. Et du coup, toutes les trois, vous avez travaillé, a priori, sur la vie réelle. Est-ce que vous avez des envies de fiction, justement, d'inventer quelque chose complètement, d'inventer un personnage, des aventures, soit dans une vie possible, soit carrément de science-fiction, je ne sais pas. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tenterait ou pas du tout?
Ou adapter un roman ou quelque chose?
Non, alors moi, l'adaptation de roman, non. Parce que c'est difficile. Enfin, c'est pas difficile dans le sens où c'est difficile d'adapter, mais c'est compliqué. Moi, j'ai des amis qui le font et souvent, il y a un rapport très étroit avec la personne qui a écrit le roman. Et puis, il faut pratiquement être dans la tête de la personne. Et ça, moi, je pourrais pas parce que j'aime pas trop qu'on me dirige. J'aime avoir une certaine liberté. La fiction, par contre, oui. J'ai écrit, parce que je suis scénariste aussi à côté, donc j'ai écrit. J'ai des projets qui sont en cours avec des dessinatrices. Et par contre, là où est la difficulté, c'est que les éditeurs qui connaissent mon nom maintenant me disent « Ah, mais c'est pas de l'humour ». Et ça, c'est difficile d'être cantonné comme ça à un style ou à une façon d'écrire et d'essayer de d'en sortir et de proposer autre chose. C'est très difficile. C'est vrai, je ne sais pas pour toi, Audrey, mais pour moi, c'est compliqué.
Moi, j'ai qu'une seule BD pour le moment, donc pour le moment, ça reste... C'est très graphique, donc pour le moment ça va. Mais c'est vrai que j'ai toujours très peur de ce côté, de ce côté où on va te dire « t'as fait une BD pour les femmes, qui parle de femmes, ça parle de régime, c'est pour les nanas », alors que c'est même pas du tout le propos d'ailleurs. C'est pas une BD de régime, clairement. Au contraire, justement, c'est justement une BD qui dit que c'est pas la solution, donc voilà. Mais par contre, j'ai peur de ce côté... on nous enferme dans cette espèce de machin girly où c'est t'es une nana, tu fais une BD qui parle d'une nana, donc c'est pour les nanas et ça ne va pas plus loin. Et il faut du rose parce que bien sûr les femmes ça aime le rose, enfin c'est tout le monde le sait.
Après je sais que Shadia tu utilises parfois des pseudos pour d'autres projets. Non, il n'y a pas quelque chose.
Alors c'est une histoire un peu bizarre. Enfin, au début, pour percer, parce que je viens de la jeunesse, moi. Je ne viens pas de la BD, je viens vraiment de la jeunesse. Et j'avais du mal à passer la barrière des éditeurs. Et puis un jour, une copine m'a dit « Si tu changeais juste ton nom et ton prénom, peut-être que ça passerait. » Et c'est passé. C'est passé, j'ai eu beaucoup de demandes, rien qu'en changeant en francisant mon nom. C'est passé comme une lettre à la poste. Et puis un jour, j'ai dit « Stop ». J'étais mal avec ça, j'étais mal. Parce qu'il y a même certains éditeurs qui me faisaient signer des contrats. On avait des albums, et quand ils me rencontraient, ils me disaient « Ah, mais on ne s'attendait pas à ça !» Et je leur disais « Mais c'est quoi pour vous, ça ?» Ils m'ont dit « Non, mais alors, c'est marrant parce qu'ils faisaient un geste, mais on ne peut pas le voir à la radio, mais ils imitaient l'ondulation des cheveux. » J'avais les cheveux très très longs, bien bouclés, enfin, ils prenaient autant de place que moi. Et je me suis dit « Non, ça suffit. » Et il m'est arrivé une aventure aussi avec un éditeur, où j'ai repris mon nom en disant voilà, je m'appelle Shadia Loueslati, ça sera Shadia Loueslati. Et un jour, je reçois un album jeunesse d'un très grand éditeur et je vois le nom sur la couverture. On avait changé mon nom et mon prénom. On avait pris, je m'appelle Shadia Loueslati, on avait pris le Loueslati, on l'avait divisé en deux et on avait mis Lou Slati. Et je contacte l'éditeur en lui disant je comprends pas, la semaine dernière tu m'as envoyé un message en me demandant quel nom je voulais sur la couverture, je t'ai dit Shadia Loueslati, et elle m'a dit ah c'est une erreur, bon à la limite ça peut arriver, l'erreur est humaine, on est d'accord, mais ce qui m'a mis la puce à l'oreille c'est que juste après elle a ajouté mais c'est beaucoup plus joli, on est d'accord. Et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaie de me détacher de ce pseudo que j'ai voulu prendre à un moment donné pour voir si effectivement ça marcherait. Et oui, ça a marché malheureusement. Mmh. Ou tant mieux, j'en sais rien. Parce que tout ça, ça fait partie de mon parcours et ça fait, c'est ce pourquoi je suis là aujourd'hui. Mais j'essaie de m'en détacher et j'essaie de m'affirmer en disant oui, c'est moi. Voilà, je veux pas de pseudo, pas de. Je veux garder mon nom. Donc voilà.
Et ça marche très bien avec Shadia Louès-Lati.
Mais ça fait partie du personnage. C'est comme ça, moi, on n'est pas étonné quand on me voit. On sait, voilà, on sait à quoi s'attendre. Et puis, c'est beaucoup mieux, je trouve.
Et au travers de la bande dessinée aussi, du coup, on a une image de à quoi s'attendre.
Mais carrément. Mmh.
Et pour ce qui est de cette question d'enfermement dans un style, peut-être que c'est assez propre à la bande dessinée. Je me pose la question là tout de suite, du coup, en t'écoutant. C'est vrai qu'il y a pas mal d'auteurs qui vont avoir une trajectoire plutôt humour, ou plutôt, voilà, sans question de sexe. C'est juste, peut-être que cet art-là peut avoir cette tendance-là. Mais c'est pas pour autant que certains auteurs ne se sont pas affranchis de cette barrière. Les éditeurs ne les y aident sans doute pas beaucoup. Mais c'est dommage. Et tu disais que tu serais plutôt scénariste sur un projet.
Je scénarise déjà des projets.
Mais tu ne dessinerais pas là, du coup.
Alors, j'ai scénarisé un projet et je suis ravie parce que c'est Nina Jacquemin qui a accepté de l'illustrer. Mmh. J'adore son trait. Mmh. Quand j'ai écrit ce texte, dans ma tête, j'avais Nina Jacquemin. Et je l'avais déjà. Et bon, j'ai la chance de la connaître, donc elle a accepté. Et c'est vrai que. Pour ce qui est du scénario, je reviens à ce que tu disais précédemment, quand tu disais qu'effectivement, on était attendu dans un style. J'ai l'impression que c'est dans tous les domaines, aussi bien dans le cinéma, quand quelqu'un va se lancer à faire des films d'un certain genre et qu'il va tenter autre chose, on va lui dire aussi « Ah, mais tu sais pas ce que tu as fait d'habitude, etc. » J'ai l'impression que quand on est dans l'art comme ça, ça touche vraiment, ça peut toucher plusieurs professions. Mm-hmm. T'as un style, on t'attend dans ce style-là. Quand tu fais autre chose, c'est beaucoup plus difficile.
Mais j'ai l'impression que quand même on peut se détacher de ça grâce aux réseaux sociaux, notamment aux plateformes type les Tumblr et Instagram en particulier, où on va poster du travail personnel. Et du coup, ce travail personnel peut faire en sorte qu'on se détache d'un style qu'on va vouloir nous faire et en disant voilà, moi mon dessin, j'ai envie de faire ça, et montrer aussi qu'on peut faire ce qu'on a envie de notre côté. Ça peut aider à se détacher de ce qu'on a envie de nous faire faire.
Mais c'est sûrement plus épanouissant aussi pour un auteur de pouvoir élargir sa palette graphique, tenter des expériences au niveau graphique.
Et puis tu t'enfermes pas dans un style, en
fait. Voilà, surtout pas s'enfermer. Oui.
On raconte ce qu'on a envie de raconter.
Voilà.
Enfin, ce serait bien qu'on puisse raconter ce qu'on a envie de raconter.
Bah, je trouve que dans la BD, on a quand même la chance de. Moi, c'est ce qui m'a permis d'aller. Enfin, ce qui m'a poussé à aller dans la BD, c'est de justement dire ce qu'on. Il n'y a pas de barrière dans la BD. Il n'y a pas de tabou, en fait, si vous voulez. On peut dire ce qu'on veut. Moi, je viens de la jeunesse, et dans la jeunesse, c'était beaucoup plus strict. Il y a certaines choses que je ne pouvais même pas dessiner, que je ne pouvais pas dire. Et dans la BD, on a cette liberté quand même qu'on n'a pas ailleurs.
C'est très très bien tout ça, donc je pense qu'on va conclure sur ces derniers mots.
C'est dur de s'arrêter.
Ouais, je
non, mais moi je.
Non, mais c'est un plaisir.
Non, mais je voulais chanter une chanson.
Ah,
ah bon,
c'est
tu
vrai.
Veux chanter une chanson. Donc là, on va conclure sur Angèle, balance ton quoi. Et puis bah, ce sera après la conclusion de l'émission avec notre très cher président.
Et surtout, merci beaucoup à toutes les
trois.
Merci
pour ce moment.